Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Le principe des duos qu'on vous propose aujourd'hui et demain vise à faire dialoguer deux personnes sur un thème qu'on leur a donné et pour lequel ils doivent, outre préparer des contenus, inventer la forme de leur échange. L'exercice, évidemment, paraît simple, mais il ne l'est pas du tout. Et donc, le premier duo de cette matinée, en fait, a même mis du temps à se construire, car nous voulions faire se rencontrer un chercheur et un praticien en architecture et en urbanisme. Ainsi, je remercie vivement nos deux invités d'avoir accepté de jouer le jeu de ce format public quelque peu inhabituel. Tout d'abord, juste à côté de moi, André Lorty. André est professeur et il enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et dirige l'Institut parisien de recherche architecture urbanistique société, plus connu sous son acronyme IPROS. L'IPROS est une des quatre équipes de l'unité mixte de recherche AUSER. Les travaux d'André Lorty, ses recherches, mais aussi ses expertises et quelques projets urbains, questionne la fabrique des métropoles avec comme angle d'approche, principaux les infrastructures d'une part, mais aussi le couple habité-mobilité d'autre part. Ses tout premiers travaux portaient sur Montréal et aujourd'hui c'est un des fins connaisseurs, plusieurs années après, de l'urbanisme parisien. On connaît en particulier l'ouvrage qu'il a réalisé avec Jean-Louis Cohen, c'est aussi un tout petit signe de reconnaissance à Jean-Louis Cohen, évidemment. Ce livre « Des fortifs au périph » qui vient d'être réédité il y a 2 ans dans une version augmentée puisque, évidemment, le devenir des infrastructures évolue. Sa récente HDR conclut sur la nécessité d'un urbanisme qu'il nomme géographique. Et André, vous en appelez à l'importance des inventaires, des témoignages pour habiter de façon plus sensible et avec de nouveaux paradigmes notre monde composé d'infrastructures héritées. Tai Ho-Yoon, merci d'être présent, est architecte urbaniste. Il a fondé en 2011 une agence d'architecture qui s'appelle SATI, une agence à l'activité internationale avec 4 équipes, une à Paris, mais je dirais même plus exactement à Saint-Maur-des-Fossés, une à Lyon, une en Mongolie et une en Corée du Sud. On sera de fait dans ce colloque sensible aux principes sur lesquels son agence SATI appuie son approche de l'architecture. Et là, je cite les termes qu'il déploie, écoute, complexité et pragmatisme. En prônant que la transition écologique sera avant tout sociale, que la frugalité restera visionnaire et que l'écologie culturelle sera locale. Allez parcourir le site internet de leur agence pour découvrir leurs projets et développer les termes que je viens de juste dénoncer. En regardant leurs projets, j'ai été particulièrement intéressé par les modes de représentation dessinés de leur approche. Ils se dégagent, si on reprend le terme d'une ligne de bande dessinée, ils se dégagent, je crois, une ligne claire qui permet d'inclure dans le dessin et au même niveau, dans un langage graphique, le vivant, l'habitant, le construit et, je crois, quelque chose des ambiances. Dans leur travail, ils s'appuient aussi sur des témoignages et des mises en débat par le film de leur démarche participative. Alors, quel est ce thème qu'on a proposé à nos deux débatteurs? Ce thème m'a été inspiré par le beau titre de l'ouvrage issu de l'HDR récente d'André Lorty, De quoi l'urbanisme est-il le projet? Autrement dit pour nous, et dans le cadre de ce colloque, que visons-nous en deçà et par-delà la maîtrise du projet? Ou encore dit avec une autre formulation, que visons-nous en deçà et par-delà de la maîtrise des ambiances? Quels sont ces scripts cachés qui nous motivent quand on échappe à ceux qui nous gouvernent? L'exercice n'est pas simple, mais c'est à vous pour 45 minutes.
Merci Nicolas. Vous n'allez pas être dépaysé, c'est la même image qui va apparaître dans une seconde. Alors, donc merci Nicolas de cette introduction. Et d'ailleurs, c'est à mon tour de remercier Théo Nguyen d'avoir accepté cette invitation, puisque on a mis un certain temps à pouvoir stabiliser un duo. Et donc Théo a accepté il y a un peu de temps, et donc on a construit ce dialogue de manière un peu, comme disons, dans l'urgence. Mais bon, j'espère que le résultat sera à la hauteur de vos attentes. Donc, merci Théo d'avoir accepté cette invitation à venir échanger sur les questions de production urbaine et d'ambiance. Donc, c'est vraiment ces deux termes qui seront au cœur de nos échanges, production urbaine et ambiance. J'introduirai notre discussion de ce jour à partir de préoccupations qui m'ont amené à ces formulations que vous trouverez dans cet ouvrage que Nicolas a mentionné. Et je fais une petite seconde de publicité, donc un exemplaire est à votre disposition dans le hall de cet auditorium. Depuis quelques années déjà, je m'interroge sur les processus qui tendent à une relative uniformisation des productions urbaines, entre autres questionnements, alors même que les producteurs de ces formes ne semblent pas toujours être conscients de cette uniformisation de la production. On peut supposer que cette relative uniformisation tend vers une banalisation des ambiances urbaines. Il suffit d'avoir en tête la découverte de la place Fürstenberg et de l'émotion qui nous parcourt la première fois qu'on la voit pour se poser la question de ces productions urbaines aujourd'hui et de leur potentiel de création d'ambiance. C'est cette interrogation sur la production des territoires aujourd'hui que j'ai souhaité partager avec Théoun et sur lequel on va dialoguer à partir d'un premier exemple. Que je souhaitais mettre au débat, c'est une étude qui a déjà un certain temps, elle a presque 20 ans, une étude d'ailleurs qu'on avait coproduite avec Théoun il y a un certain nombre d'années, mais je pense qu'elle a gardé son intérêt. Elle a été réalisée à l'époque à la demande de l'EPA Plaine de France qui s'interrogeait sur les enjeux de ses relations avec Paris. Pour cela, il fallait comprendre les dynamiques à l'œuvre dans la transformation de ce territoire. Et ce qui nous avait amené à faire des hypothèses sur ce que nous avions appelé le devenir centre inéluctable de ces communes de proche périphérie parisienne. Évidemment, une hypothèse comme celle-là était inaudible de la part des élus et des techniciens de Plaine de France avec lesquels on échangeait à l'époque. Et donc, on avait trouvé cette astuce pour essayer de s'extraire de la persistance des images mentales que produit la cartographie en général. On avait trouvé cette astuce de représenter les territoires à travers des cibles, façon comparaison des qualités d'appareils photographiques dans les catalogues de la FNAC à l'époque, pour comparer les territoires entre eux. Et donc on a ici un exemple avec la commune de Saint-Denis et la diffraction du mode d'occupation des sols en forme de cible. Et donc cette astuce nous avait amené à mettre au point diverses représentations, dont celle-ci, qui traduit cette première idée que je proposais à l'instant. Donc on a sur la cible de gauche l'état des trois communes mitoyennes de Paris en gris par rapport à l'occupation des sols des trois arrondissements parisiens mitoyens. Et donc ça, c'est à partir du MOS de 1999, donc en gros, on l'a titré en 2000, et celle de l'autre image, l'état du même territoire en 2012, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'en additionnant les mètres carrés de permis de construire à l'époque qui avaient été déposés, qui étaient sur le point d'être mis en œuvre et dont on estimait un peu le temps de production à une dizaine d'années, on voyait que, en fait, l'image de la cible des trois communes mitoyennes de Paris rattrapait celle des trois arrondissements parisiens. Et donc, on était devant ce constat de ce devenir centre. Et on s'était ensuite posé la question, mais bon, d'accord, en termes d'occupation des sols, ce qui est une donnée un peu abstraite, on arrive à cette comparaison troublante d'une similitude entre les communes en question. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il en est exactement en termes de forme urbaine? Et donc là, vous avez dans la bande du haut, en partant de la gauche, un îlot parisien des années 90, on est dans le secteur de la Villette, un îlot parisien du secteur Seine-Rive gauche, et l'îlot de Pleyel-Landy, qui est en fait une des principales zones d'aménagement concertées, en secteur tendu évidemment, de proche périphérie parisienne, dans le territoire qui nous intéressait. Et donc, voilà, on faisait ce constat d'îlots sensiblement une cote de 90 par 180, on va revenir là-dessus dans un instant, et puis la série du bas, c'est cette interrogation-là qui avait surgi au début des années 2000, au milieu des années 2000, je me suis posé la question, mais alors qu'est-ce qu'il en est quelques années plus tard? Et pour constater qu'on retrouve ça dans les secteurs tendus un peu partout, notamment... Bon, je ne vous ai pas mis toutes les images, mais à Nancy, c'est pareil. À Bordeaux, là, on en a une image à l'extrême droite. Évidemment, ce n'est rien de politique, hein, c'est simplement chronologique. Et voilà, donc cette question d'une forme de standardisation nous amène évidemment à poser la question, mais alors qu'en est-il si on a cette forte tendance à l'uniformisation, qu'en est-il des ambiances urbaines? Donc c'est à partir de ça que j'ai sollicité Théo en lui disant, mais alors toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu perçois ces données d'un point de vue opérationnel?
Oui, donc effectivement, quand André m'a parlé des 90 par 180, j'étais assez étonné parce que ce n'est pas un chiffre qu'on a en tête. Nous, on a beaucoup de standards en tête quand on est concepteur aujourd'hui, sur la trame du stationnement, l'épaisseur des bâtiments. Donc, toutes ces choses-là, on les maîtrise. Et réfléchir à un îlot ou un macro-lot de 90 par 180, j'ai essayé de me poser la question, mais pourquoi quels sont les déterminants qui permettraient en fait d'arriver à ces formes-là? Ça s'applique évidemment pour moi à des endroits où il n'y a pas une structure vière qui est totalement établie, parce que sinon on se mettrait en continuité de voirie existante, donc c'est le contexte qui détermine la dimension. Ça fonctionne un peu dans des acs où on a soit sur des emprises industrielles avec une table rase ou sinon c'était des parcelles agricoles, voilà. Et à partir de là, comment on arrive à mettre en place les distances? Ce qui est assez déterminant, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, c'est la conception des voiries et la distance entre les voiries. Une voirie aujourd'hui doit accueillir beaucoup de fonctions, enfin, le passage, le stationnement, les arbres, des noues, des pistes cyclables, des bandes d'apport volontaires, etc. Donc, toutes ces épaisseurs-là font des distances qui dépassent 20 mètres, ça peut arriver à 25 mètres. Donc, à partir de là, quelle est la bonne trame pour mettre des voiries? Si on met des voiries comme ça tous les 30 mètres, il y aura autant de voiries que de construits. Donc, ça, c'est un élément de standardisation de la voirie. L'autre élément, c'est l'importance du stationnement dans la conception des îlots aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez le règlement du PLU avec l'imposition de pleine terre et le nombre de stationnements qu'il faut faire par mètre carré et ce qu'on est capable de mettre dans le stationnement, et ça vous donne le volume qui est au-dessus. Donc il y a quand même un déterminant important, et les 90 mètres ou 180 mètres, ça permet de faire des parkings efficients, je pense. Et un dernier aspect, c'est les règles de sécurité incendie aussi. 90 mètres, finalement, vous prenez la règle de la troisième famille B des immeubles de collectif. C'est 50 mètres de la rue jusqu'à la cage d'escalier, donc dans 90 mètres, vous arrivez à faire l'accès pompier. Et à partir de là, ça commence à dessiner cette forme-là. Et après, j'ai vérifié sur des projets qu'on avait faits, et effectivement, on arrive, alors c'est pas 80, pile 90 par 180, mais on se rapproche comme ça de distance. Les 180, on peut les rediviser avec deux venelles piétonnes, mais c'est pas de la voirie. Voilà. Donc, un certain nombre de points comme ça. Ce qui est aussi déterminant, je pense que c'est la question de l'épaisseur des bâtiments. Là, c'est des exemples de villes denses où, pour arriver à financer l'opération d'aménagement, et pour plein de raisons, on arrive à des densités importantes. Et donc, il faut épaissir les bâtiments au maximum. Et on est dans un standard de plutôt de 15 mètres partout, ce qui ne permet pas bien de faire des bâtiments bien ventilé et bien éclairé.
Et je pense d'ailleurs, tu soulevais cet aspect qui n'est pas négligeable, c'est celui de la question financière. Mais là, bon, ça sort un peu de nos compétences à tous les deux. Mais on peut imaginer aussi que cette taille d'îlot correspond à un investissement raisonnable d'un opérateur. C'est-à-dire... Et là, les exemples sont ceux des macrolots, entre autres. Et d'ailleurs, on en a un exemple sous les yeux. C'est la ligne du bas au milieu, c'est le secteur de Boulogne, rive de Seine à Boulogne-Billancourt, où c'est un opérateur unique qui prend en charge l'opération et qui s'associe à des opérateurs de second rang, pourrait-on dire. Et donc, il y a une assiette financière qui est sans doute d'une échelle raisonnable pour les opérateurs en question. La question qu'on peut se poser à partir de là, c'est quels sont les facteurs qui pourraient faire évoluer ces données et vers quelle qualité on pourrait tendre dès lors qu'on prend en compte aujourd'hui des données telles que... le changement climatique, évidemment, les questions environnementales et biodynamiques, etc. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Théoun, de ce point de vue-là.
Oui, aujourd'hui, il y a un grand enjeu qui se joue dans la fabrication des logements sur l'adaptation des logements au changement climatique et la qualité bioclimatique des logements. Il y a un aspect carbone avec des matériaux plus sains, etc. Et puis, la question de la forme urbaine qui est questionnée et la typologie, on va dire, de logements qui est très conventionnée aujourd'hui, qui est héritée de ces trames de 15 mètres, de plots, etc. Et que, à partir du... Et en fait... Cette épaisseur qui a été conçue dans l'optimisation de l'ingénierie de 15 mètres génère des logements monorientés, en fait. Quand vous commencez à dérouler l'épaisseur de 15 mètres et qu'on fait un îlot fermé, on ne peut pas faire de traversant dans 15 mètres facilement, alors que c'est plutôt 12 mètres. Et aujourd'hui, finalement, par exemple dans le diffus, sur un foncier, la capacité qui va être faite pour la faisabilité sera sur ce maximum-là d'un bâtiment de 15 mètres épaisseur qui va à la hauteur qu'il faut. Et si vous décidez de faire plus fin pour faire des logements traversants, vous n'arrivez pas parce que le promoteur, il fait pas une offre suffisante pour acheter le terrain parce que le voisin, il offre un produit d'ingénierie étudié pendant 40 ans de 15 mètres d'épaisseur, pas de lumière naturelle dans les circulations, les salles de bain... en cœur du noyau, et donc c'est cette forme-là qui gagne forcément. Aujourd'hui, avec les enjeux climatiques et toutes les différentes chartes qui sont en train de se mettre en place sur le carbone, mais aussi sur le bioclimatisme, et il y a la possibilité un peu de réinterroger ces formes, et on travaille sur des typologies où on favorise le traversant à partir du T2 jusqu'au T5. Donc 100% des logements sont traversants et ça demande une emprise au sol un peu plus faible, de mieux maîtriser les hauteurs et en même temps d'être efficace. Donc c'est un changement un peu de mentalité, parce que ce genre de plan avec les logements intermédiaires, par exemple, avec des escaliers en collectif, jusqu'à maintenant, on disait que ce n'était pas possible de le faire parce que ça ne rentrait pas dans le prix, etc. Et aujourd'hui, ça commence à être accepté même par certains opérateurs qui voient l'opportunité d'améliorer la qualité, parce que c'est une attente aussi qui est extrêmement forte.
Voilà. On voit aussi que ça met en question l'économie d'ensemble de production, c'est-à-dire si l'épaisseur du bâtiment diminue, et si on reste dans des îlots à caractère standard comme ceux qu'on mentionnait tout à l'heure, issus d'un partage voirie domaine privé, on a trop d'espace libre dans l'îlot. Donc il y a potentiellement une pression à la diminution de la taille des îlots, donc à une remise en question de cette économie d'ensemble, domaine public, domaine privé. Donc ça pose des questions d'évolution de formes urbaines et d'économie d'ensemble de production. Barcelone ? Oui, vas-y.
Oui, donc après, on a essayé de réfléchir à comment faire évoluer cette typologie des 80.
Ça c'est quoi ?
De 90 par 180, et de voir est-ce qu'on est capable d'agrandir l'îlot, parce que dans les 90 par 180, en cœur d'îlot, il y a un certain nombre de qualités, de paysages, d'intimité, etc., et d'arriver à amplifier et arriver à faire des îlots encore plus importants. C'est un cas ici à Rouen, où là, la partie aménagée, c'est environ... c'est un carré de 130 par 130, mais on se retrouve à faire les deux autres bâtiments sur les rues, et donc on se retrouve à aménager un îlot de 130 par 300 mètres, sans voiture, avec tout un cœur d'îlot, piéton, public, en rapport avec une école primaire. Donc, alors ça, au moment du concours, tout le monde était à peu près d'accord, c'est-à-dire que le fait de piétoniser sur des surfaces très importantes... il y a encore 10 ans, il y avait des réticences à faire ce genre de plan masse, et aujourd'hui, même au niveau des élus et de la mentalité de la société, c'est accepté qu'on puisse avoir un cœur d'îlot qui est très libéré. Par contre, ce qui a été plus compliqué, au niveau de la mise au point, une fois qu'on a gagné le concours, c'était avec les services techniques de la ville, parce que les habitudes, alors vous prenez les poubelles, les camions poubelles, la poste, les livraisons Amazon, un certain nombre de fonctions urbaines qui sont assurées avec des véhicules motorisés, qu'on présente un plan en masse comme ça, même si il y a une volonté politique de le réaliser, les services techniques arrivent avec un certain nombre de questions, et ça a été un travail assez fin pour arriver à régler toutes ces questions-là. Et on a réussi à le faire, et donc ça va a priori se faire sous cette forme-là. Donc,
La question du rapport au service technique est très importante, on va y revenir en dernière partie de notre échange. Mais dès lors, ça soulève à nouveau une question d'économie d'ensemble de production. L'investissement de base pour si on revient à cet équilibre domaine public-domaine privé dont Théoun parlait en introduction de son propos, on voit que le choix d'avoir une venelle piétonne et paysager, évidemment, c'est un investissement peut-être moins important que des bordures de trottoirs en granit, les lampades, le mobilier urbain qui vient avec, etc. En revanche, c'est un investissement à long terme, puisqu'il faut l'entretenir et que la qualité dépend de la capacité de son maintien par les services techniques en question. D'où les discussions toujours délicates au moment de mise en œuvre de ce type d'options. Ça nous amène à un autre exemple qu'on souhaitait aborder, qui est celui d'une évolution récente du tissu urbain barcelonais, dont on connaît hein, les données initiales, celles de Cerdà, avec ses îlots d'un peu plus de 100 mètres, avec un anthrax de voirie à voirie entre 120 et 130 mètres. Et donc, je passe la parole à Théoune qui va décrire un peu plus précisément les options qui sont prises et leurs limites.
C'est les super ILAS à Barcelone. Il y a eu donc l'idée de regrouper des îlots pour faire des unités de 400 mètres par 400 mètres. Alors, il y a eu toute une histoire que je vais pas. Il y a eu des concours internationaux, plusieurs sites pressentis, et les premières réalisations sont. Je crois qu'il y a un îlot ou deux qui ont été réalisés assez récemment. Donc, si vous avez envie d'aller à Barcelone, ça fait une bonne raison pour aller voir ces aménagements paysagers qui sont très qualitatifs. Et le principe, c'était de, comme vous voyez sur le schéma, d'avoir les axes passants sur un rythme de 400 mètres, et puis à l'intérieur des îlots, permettre la desserte à 10 km/h et d'avoir une majorité de rues piétonnes. Donc ça permet de libérer de la voiture une grande partie du cœur d'îlot avec des aménagements paysagers de qualité, avec des usages. Après, il y a aussi des critiques hein, du retour d'expérience de ça, que je trouve assez intéressant. Qu'une paysagiste de Barcelone m'a rapporté, c'est qu'il y avait quelque chose de profondément démocratique dans la trame de Cerdà, avec ses 130 par 130. Et en hiérarchisant des voies, en fait, quelque part, ça exclut ou ça discrimine. En fait. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont sur les voies passantes, qui subissent l'automobile avec une circulation accrue, et puis les personnes qui sont dans les rues piétonnes, très sympas. Et donc la valeur des rues piétonnes augmente, et puis ceux qui sont sur la rue, ça se retrouve un peu plus bas. Pour des raisons aussi de charges foncières et d'usage pour le commerce, la petite charcuterie du coin, elle ferme, et elle est remplacée par un bar branché, un restaurant, un coffee shop, etc. Et donc l'ambiance de ces rues piétonnes, ça devient très sympa, mais pour les locaux, ils trouvent que ça devient un peu trop gentrifié, touriste. C'est idéal si vous avez un logement Airbnb, mais si vous habitez là, à un moment, ça devient beaucoup de nuisances tous les soirs parce qu'il y a les bars, etc. Donc il y a aussi des critiques par rapport à ce projet qu'on trouvait intéressant, même si c'est très séduisant et que pour nous, effectivement, réduire la place de la voiture dans l'espace public pour desservir les quartiers, c'est quand même quelque chose que nous, on porte au quotidien, quoi.
L'exemple de Barcelone nous rappelle aussi que c'est la standardisation n'est peut-être pas le problème, en l'occurrence. Le plan de Cerdà est assez radical de ce point de vue-là. Et les îlots qu'on pointait tout à l'heure, 90 par 180, sont peut-être pas un problème en soi. Ce qui est peut-être ce qui attire plutôt notre attention, c'est le fait que cette production soit impensée. Et là, le premier exemple que je donnais, celui de cette comparaison des cibles entre les trois communes limitrophes parisiennes et les trois arrondissements parisiens du Nord, était un indice que les élus et les techniciens étaient en train de produire une ville dont ils n'avaient pas conscience, puisque l'argument principal qui nous était renvoyé quand on mentionnait le fait qu'elles étaient dans un devenir centre possible, voire inéluctable, c'était que leur territoire était singulier et n'avait rien à voir avec Paris, et que jamais il ne serait question de transformer leur territoire en autre chose que ce qu'il était déjà, au risque de perdre cette singularité qui les distingue de Paris. Et donc la démonstration qu'on faisait était plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire de manière inconsciente, vous êtes en train de produire une ville qui répond aux standards de la ville-centre dont vous dites que vous distinguez fondamentalement. Donc c'est plutôt cette impensée qui pose question, et non pas la standardisation elle-même. En quoi ça pose question ? C'est-à-dire c'est que cette production urbaine est plutôt prise par des mécanismes à la fois techniques, on en a parlé, à la fois financiers, on les a esquissés sans trop savoir exactement quel est leur fondement, mais on le pressent. Alors que la production urbaine barcelonaise, elle, est fondée sur une analyse qu'on peut critiquer, mais au moins qui est énoncée et qui est mise au débat et sur laquelle on peut revenir 100 ans plus tard pour dire voilà ce sur quoi ça a été fondé, est-ce qu'on peut la faire évoluer et la faire évoluer au risque de critiques comme celle que mentionnait Théoune sur le fait que un des enjeux initiaux de cette production de forme est remise en question par son altération en fonction d'une réponse à des enjeux nouveaux de verdissement, d'étanchéité du sol, de qualité d'ambiance urbaine, etc. Donc cette question de l'impensé nous semble importante et on peut se demander comment aborder la production urbaine en étant plus attentif aux qualités des lieux sur lesquels on intervient pour les faire intervenir dans cette production urbaine et essayer d'échapper à ces mécanismes trop souvent, qu'on subit trop souvent au lieu de les maîtriser, d'une part, et comment prendre en compte non seulement les perceptions du concepteur, mais également celles des habitants. Bon, c'est quand on produit un quartier nouveau, les habitants ne les connaissent pas, ils arrivent toujours après. Cela dit, l'image mentale qu'ont les habitants d'une ville en transformation est peut-être prise en compte. Et là, je repasse la parole à Théoune, qui va, pour lequel cette question de l'attention au lieu est essentielle dans l'approche.
Oui, alors, Alors ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur ces questions-là de manière assez empirique. Il y a 12 ans, on a gagné un grand concours de projet urbain à Toulouse, une ZAC à la française typique, sur une zone d'activité à cheval sur des emprises de terres agricoles, avec un grand tracé, 40 hectares, etc. Et puis, on a commencé à se poser des questions un peu de faire évoluer le travail de l'agence et arriver sur des contextes plus sur des tissus constitués en ville ou sur des secteurs industriels, mais en lien avec avec un passé industriel et une ville. Donc à partir de là, on a essayé de travailler sur une méthodologie qui ouverte sur la concertation et qu'on a essayé un peu de théoriser et qu'on a appelé ça l'agence en plein air avec l'idée de sortir de l'agence et d'être plus proche du terrain et cette photo un peu de Claude Monet, c'était un peu une référence aux impressionnistes qui au 19e siècle ont dit qu'ils allaient peindre sur le motif et donc en rupture par rapport à l'académisme qui avait des beaux-arts et des peintures faites en atelier, voulaient aller sur le terrain et dessiner sur place, etc. Donc voilà, on a un peu pris cette idée un peu romantique de d'être un concepteur sur le terrain qui rencontre en résidence, etc. Et on a commencé à développer un peu une méthode de travail. Alors déjà, c'était le fait de pratiquer le terrain était important parce que il y avait cette idée que le terrain allait nous parler, qu'on allait comprendre ce qui était là de manière plus attentive, les arbres existants, les particularités du site. Il faut quand même savoir que quand on soit, je pense, les quartiers, on va sur le site, mais à un moment, il y a beaucoup de travail qui se fait en plan et les particularités de locales sont souvent effacées par des gestes de composition, etc. Donc là, l'idée, c'était d'essayer d'aller plus regarder les choses. Et puis après, on a commencé aussi un peu à essayer de capter le lieu, ce qu'on ressent de manière différente et d'utiliser le dessin comme... Voilà, ça c'est le dessin qu'on a fait sur le site à La Rochelle, qui est une friche ferroviaire. Alors, on dirait que c'est un champ, mais en fait c'est une friche ferroviaire polluée avec du mâche-fer, etc. Mais qui est devenue complètement bucolique, comme ça. Et puis on a fait d'autres, voilà, d'autres expériences et d'aller dessiner un site. Nous, on trouvait qu'il y avait une vertu parce qu'aujourd'hui, on prend des photos et ça, on fait 10 000 photos en une heure. Là, c'était un peu prendre le temps de s'asseoir, d'occuper l'espace public en le dessinant. Et c'est aussi une manière de... On va rester un quart d'heure, une demi-heure à dessiner. Donc, on observe ce qui se passe, les usages. On rencontre des personnes qui viennent nous parler. Alors, pourquoi vous dessinez? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il n'y a rien à voir. Pourquoi vous dessinez? Donc, on engage des discussions. Et donc, c'était aussi d'être dans une appréhension sensible et de, quand on dessine comme ça sur place et avec l'idée que peut-être que quand on ira trouver des validations sur le projet, peut-être que ça peut se faire aussi sur place et qu'on décidera comment on fait une voirie à l'endroit même et pas dans le bureau avec les plans en disant qu'on va faire ça et chacun donne son avis. Voilà. Donc il y avait cette idée un peu de travailler là-dessus. On a aussi fait beaucoup de captations vidéo, notamment à Grenoble, mais aussi en Guadeloupe, à Bussy-Saint-Georges. On a fait comme ça des interviews à Grenoble. On a quand même identifié, on a interviewé 70 personnes du monde associatif, universitaire, les élus, les techniciens, les habitants lambda. On avait comme ça sur des thématiques fait des films, voilà, pour comprendre ce qui n'est pas forcément donné dans les données d'entrée d'un projet, qu'on reçoit. Toutes les études précédentes, etc., et qu'on allait au contact de la population, ça allait pouvoir un peu nous parler différemment. On a aussi travaillé sur, après, des questions de détournement de représentation, et de, par exemple, en bas, ici, vous avez, on avait fait en Lorraine, sur un site avec une topographie forte, on avait fait tout la maquette du site, et puis on avait fait des projections en vidéo mapping d'images de la mémoire industrielle du site. Et puis on avait, voilà, ça a permis d'engager des discussions sur des choses qui sont justement pas forcément déterminées ou plus sensibles. Et puis on a aussi fait ce que vous voyez au-dessus, on a essayé de faire des cadres comme ça pour des balades où on allait voir le projet, comment il est sur le, c'est ce que vous avez en haut à droite là. Donc ça, c'est une image du film de Greenaway, Meurtre dans un jardin anglais, avec, c'est ce qu'utilisaient les paysagistes au XVIIIe siècle pour dessiner des paysages. Et on a un peu retrouvé ce modèle-là, on a fabriqué un support comme ça, et on se mettait sur le site, et les personnes pouvaient voir le projet donc par le dessin. Et donc c'est un peu comme de la réalité augmentée, mais analogique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on propose ça plutôt avec des iPads, mais on a voulu faire... Voilà, donc c'est un peu des choses... Et puis on a été jusqu'à après à travailler sur des ateliers ludiques de conception où on allait demander aux habitants de prendre des volumes. Alors les volumes, il y avait des épaisseurs de bâti différents en fonction des typologies. Et en atelier, les personnes faisaient des projets. Et puis nous, on avait analysé. C'est ce qu'on avait fait à Rennes et à Grenoble, où on a analysé en fait le travail des différents ateliers pour ensuite faire une synthèse de... Voilà, de rapport au contexte, de sensibilité, de la hauteur vis-à-vis du voisinage, des continuités naturelles qui étaient souhaitées. Donc toutes ces choses-là, on faisait une synthèse et puis on restituait aux habitants. Voilà. Donc, c'est un certain nombre de choses qu'on a essayé de mettre en place pour un peu faire autrement la production de l'urbanisme, avec des résultats assez intéressants sur certains aspects, notamment la vidéo, ça a très bien marché. Sur le dessin, je pense que nous, on est plus sensible à ces questions-là que les élus et les habitants. Mais là, il y a un souhait qu'on aimerait faire, ça serait de pouvoir faire des séances de concertation où on puisse faire du live sketching, de dessiner directement des choses. Alors, on a fait un peu dans des ateliers thématiques sur la qualité du logement, où on a essayé de dessiner ce que les gens nous disaient directement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être qu'on aimerait bien travailler, mais qu'on n'a pas encore réussi à trouver le cadre pour le faire.
Oui, cette démarche renvoie renvoie à ces situations que l'on rencontre constamment dès lors qu'on est qu'on a une mission d'urbanisme ou d'architecture urbaniste dans une commune. C'est celle de la distance entre les analyses soi-disant objective et que l'on apporte en tant que spécialiste, et la perception du territoire plutôt fondamentalement sensible qu'ont les habitants. Donc cette distance entre l'objectivation du spécialiste et l'expérience sensible des habitants, on est toujours à la recherche des outils pour essayer de réduire ce fossé qui peut nous séparer et qui rend disons, la compréhension de l'intervention possible. Entre l'identification des spécificités locales pour les rejouer dans le projet, qui est le rôle du concepteur, et repérer ce qui fait sens compte tenu de la sensibilité que les habitants ont de leur propre territoire pour le préserver. Donc ce sont ces deux enjeux qu'on comprend bien à travers la démarche de l'agence hors les murs, hein, si je peux l'appeler comme ça, en ce qui concerne la démarche qu'exposait Théoune. Mais est-ce que l'on sait créer des dispositifs susceptibles de produire des ambiances singulières? Donc, à nouveau, cette planche que tout le monde connaît, hein, extraite des promenades de Paris, qui à nouveau nous informe sur le fait que la standardisation n'est pas le problème, mais bien ce que l'on peut produire de cette standardisation. Et moi, je suis toujours fasciné hein, par ce dispositif très parisien, qui est celui des marchés forains, et de ce qui les rend possibles, c'est-à-dire cette extrême standardisation du domaine public parisien. Ici, on a le camion des marchés stationné en rive du boulevard, du terre-plein du boulevard de la Villette. Et on a sur l'image du bas un technicien, je ne sais pas comment on les appelle, un de ces ouvriers des marchés qui est en train de disposer les piquets qui sont strictement équidistants et qui prennent en compte l'écartement des arbres, l'écartement des lampadaires, sur lesquels un lampadaire sur 6 est substitué par un poteau d'alimentation électrique en ce qui concerne les aires de marché. On n'a pas de photographie des grilles d'arbres, mais qui évoluent aussi en fonction de la disponibilité du terre-plein à y accueillir ce marché forain. Puis on a les ambiances qui sont produites dans l'image, l'image de droite. Il s'agit non plus du boulevard de la Villette, mais celui du boulevard Raspail. Et voilà, donc ce questionnement sur nos capacités aujourd'hui à produire des dispositifs semblables. Et ça nous ramène à la question de la flexibilité, disons, des interlocuteurs techniques dans le milieu urbain et des contraintes dont parlait Théoune tout à l'heure, dès lors qu'il s'agit de faire un espace, un domaine d'usage public qui ne soit plus strictement, qui ne réponde plus strictement aux fonctionnalités que décrivait Théoune en début d'intervention, c'est-à-dire le passage, l'arrêt des véhicules, parking, les vélos, les bornes d'apport volontaire pour ce qui concerne les poubelles, etc. Dès lors qu'on sort de ces dispositifs, c'est toujours très délicat l'appui de services techniques qui voient une remise en question d'habitude et parfois même des remises en question sérieuses. Les engins de nettoyage de la voirie ont des rayons de giration particuliers. Ils ne peuvent pas être tout terrain. Donc ça impose des contraintes de rayons de giration, etc., etc. Enfin, toutes sortes de dispositifs. Et on voulait vous quitter là-dessus, sur cette interrogation sur nos capacités à produire, et peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions ou des prolongements à nos interventions. Tu voulais ajouter quelque chose, Théoune?
Non, c'est bon.
Je trouve que cette démonstration initiale sur effectivement en deçà de ce que l'on souhaite pour un projet et qui nous gouverne, et comment on peut reprendre la main en fait sur cette gouvernance qui nous est donnée par tout un ensemble de choses, et se dire si on reprend la main, pourquoi pour aller vers où. Et effectivement, c'est pas la lutte contre la standardisation qui est le problème. Mais je crois que je passe la parole à la salle qui veut, sur des propositions d'intervention courtes, parce qu'on a 10 minutes, on a 12 minutes pour échanger, c'est pas très long, mais ça peut être stimulant. Qui veut commencer ?
Oui, merci beaucoup pour ce dialogue entre vous. Je me disais, en prolongement, que peut-être vous avez parlé des interlocuteurs techniques. Vous avez peut-être peu parlé de ceux qui portent la gestion. Vous l'avez un peu évoqué, puisque parfois ces interlocuteurs techniques sont aussi ceux qui sont gestionnaires. Et je pense aussi à ça parce que, en fait, ce que j'ai pu observer avec des étudiants en les faisant travailler sur le cas nantais de la métropole et la manière dont justement la ville se transformait petit à petit, c'est que sur les 10 dernières années, ce qui a disparu, ce sont les ZAC. Au profit des contrats qui s'appellent les projets urbains partenariaux. Et donc qui font que... c'est comme si la puissance publique sortait un peu du jeu et donnait les clés de la production urbaine à des opérateurs immobiliers pour fabriquer de la ville, et en les mettant en charge, justement, de fabriquer ces espaces ouverts qui sont les espaces publics, mais qui tendent à être de moins en moins publics et qui sont notamment sous cette influence d'une pensée, d'une gestion facilitée.
Je vous laisse répondre, et puis pendant ce temps-là... Vous pouvez préparer ou deux interventions.
Votre question est... Je vous remercie, hein, votre question est très importante. Elle est délicate. Aujourd'hui, on est devant une alternative, ces zones d'aménagement concertées ou autre chose. Et ces autres choses sont... ces autres procédures elles répondent à une vraie difficulté. C'est que les zones d'aménagement concertées ne sont pas résilientes, sont difficilement résilientes. Elles sont contraintes par un cadre juridique strict, un budget, la nécessité de vendre des charges foncières pour pouvoir produire de l'espace public, etc. Et quand il y a des chocs, on a de la difficulté. La ZAC est difficilement résiliente, c'est-à-dire il faut pouvoir la réajuster, et ce qu'on sait difficilement faire. Donc, et aujourd'hui, on a des chocs tout le temps. Le foncier, le mètre carré du bureau s'effondre. On découvre une pollution sur le sol, en sous-sol. On a des nécessités d'ajustement permanent. Donc voilà, les opérateurs publics sont à la recherche d'alternatives. En plus, elles ont de moins en moins les moyens d'accompagner un projet de zone d'aménagement concerté. Donc on fait confiance au privé. Et effectivement, on arrive tout de suite dans des équations qui sont d'abord économiques avant d'être qualitatives. Et ça, Théoune complétera de ce point de vue-là dans un instant. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce que la puissance publique est en capacité d'orienter cette production urbaine avec des éléments qualitatifs. Et dès lors qu'on fait le constat qu'ils ont de plus en plus de difficultés à accompagner une zone d'aménagement concertée qui est pourtant cadrée par des données très strictes et qui évite certains dérapages, dès lors qu'on est dans d'autres types de contrats, il faut être encore plus équipé pour pouvoir suivre ces opérateurs privés. Donc c'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, je pense qu'on... C'est un enjeu d'arriver à trouver des outils qui permettent cette production urbaine qui soit plus résiliente, c'est-à-dire faire face au choc permanent que rencontre la production urbaine aujourd'hui, tout en parvenant à accompagner ces opérateurs privés de manière raisonnable. Donc, je pense qu'on est dans une période de transition, de mon point de vue, mais l'issue n'est pas certaine, loin de là. Cela dit, ça nous ramène à cette question de l'impensé, et effectivement de la capacité que peuvent avoir des techniciens et des élus d'avoir un regard critique sur ce qu'ils sont en train de produire. Et là, il y a vraiment un travail à faire. Et je pense que c'est un travail qui nous incombe à nous, entre autres. Architecte et urbaniste, c'est de participer à une construction partagée, collective, de savoir sur ce qu'est notre environnement et la manière dont il est produit. Donc c'est un enjeu fondamental, de mon point de vue, pour les années à venir. Et voilà, c'est un des aspects sur lesquels je milite en tant qu'enseignant, mais bon.
Après, on assiste quand même à une privatisation de la fabrication de la ville depuis 20 ans qui est réelle. Même dans les ZAC, il y a cette logique économique qui est de plus en plus importante, la question du bilan. Et voilà, donc c'est la même logique. Le privé a pensé qu'ils allaient faire mieux, en fait, que ça allait aller plus vite et que les coûts publics, les fonctionnaires, ils n'étaient pas bons. C'était quand même ça. La Berge du Lac, là, qui a été montrée, qui était un des premiers quartiers privés, a mis autant de temps, peut-être un peu moins, mais autant de temps qu'une ZAC classique, parce qu'on arrive quand même à plein de contraintes techniques, administratives, etc., qui sont inhérentes à ça. Après, on a travaillé, nous, pas mal.
Juste pour compléter ce que tu disais, Théo, la série des réinventer tout ce que vous voulez, telle ville, tel quartier, en témoigne. C'est-à-dire, c'est des projets qui, en ce qui concerne les premières générations, il y en a à peine un sur deux qui savent. Hein.
Oui, ben voilà.
on peut peut-être prendre une ou deux dernières interventions. Je ne sais pas qui veut réagir.
Bonjour, merci beaucoup pour votre duo qui donne beaucoup d'idées. Moi, j'ai une question en fonction du colloque sur la notion d'expérience. Et je me demandais comment est-ce que vous arriviez à travailler en aller-retour entre les diverses expériences et les vôtres en termes de représentation, de projet et de discours. Pardon, c'est une grande question.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, en fait.
Oui, je peux préciser. Quand je pense d'aller-retour, il me semble que vous vous intéressez à recueillir une diversité d'expériences. Ces expériences, ce sont aussi les vôtres. Donc il y a des allers-retours qui se font entre votre expérience sur le terrain et puis ce que les gens vous disent, vous racontent, ce qu'ils projettent, l'imaginaire, etc. Donc je me demandais comment vous travaillez avec ces allers-retours qui impliquent forcément une mise à distance, puisque vous en parlez de manière plus ou moins explicite. Et comment est-ce que vous pouviez les travailler, ces différentes expériences, aussi bien en termes de représentation, de projet, que de discours ?
Oui, merci. Alors, c'est quelque chose qui est arrivé de manière assez empirique. Hein. On n'a pas décidé de faire comme ça. Il y a pas mal de choses qu'on a commencé à faire parce qu'il nous semblait que ça pouvait résoudre un certain nombre de questions. Les premières expériences de concertation un peu atypiques qu'on a pu faire, c'était sur un site industriel en Lorraine, c'était là où on produisait, il y avait des mines et l'industrie sidérurgique sinistrée, avec tout un passif très fort. Et il nous semblait que on travaillait pour un EPA qui était en guerre contre la ville, et on est arrivé un peu comme médiateur, et on est allé rencontrer des gens. Et en fait, ça a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ce qui est important, c'est d'arriver, de faire ce travail-là au niveau, au moment du diagnostic, en fait, quand on commence à découvrir et qu'on fait son expérience sur le site, le travail technique des données, les réseaux, les axes, etc., et de recueillir la voix des habitants pour ce qu'ils peuvent nous apporter de leur vécu, d'expérience. Et en fait, en partageant cette expérience avec eux, nous, ça nous permet de comprendre des choses qu'on n'aurait pas forcément compris, et ça permet de construire un récit qui inclut les personnes qui ont participé. Ensuite, nous, on a été assez clairs sur notre position, sur les choses qu'on allait discuter ou pas avec eux. Et donc, on n'a jamais fait croire qu'ils pouvaient tout faire dans la concertation. Il y avait un cadre et une méthode qui étaient définies depuis le début. Et on était aussi assez sincères dans les échanges sur notre avis. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est dans des discussions en atelier thématique ou interview, etc., il y a des gens qui peuvent porter une idée et puis nous, une proposition, et nous, on peut dire que nous, on n'est pas forcément d'accord, mais que ça fait partie du respect d'échanger sans l'intention derrière. Parce qu'en fait, à la base, le vrai problème de la concertation qui a été perverti un peu, c'est que en fait, c'était des réunions d'information. On présentait le projet aux habitants, ils râlaient, et puis on disait « Ok, c'est bon, on y va ». Donc en fait, il y a toujours une méfiance des personnes qui viennent dans ces ateliers, qu'en fait on leur cache quelque chose, que le projet il a été déjà fait. Toutes ces questions-là, en fait, le fait d'échanger avec eux, de faire plusieurs ateliers et de se rencontrer et tout, ça permet à un moment de désamorcer des situations parce que on n'a vraiment pas commencé à faire le projet et voilà. Et donc c'est des choses en fait qui se construisent un peu petit à petit, en fait, je pense. Je ne pourrais pas vous dire il y a 30% d'expérience personnelle ou 70% de ce que les habitants ont donné. C'est qu'à un moment, on arrive comme ça. C'est ce qui fait aussi consensus à un moment, c'est que les informations arrivent de plusieurs horizons. Et quelque part, nous, notre travail est de faire la synthèse pour qu'ensuite les élus puissent faire le choix, en fait. Ça devient un peu... Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Merci. Merci. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Et... Je sais que si l'atelier en plein air que vous proposez, enfin que vous mettez en place, rejoint aussi quelques travaux sur la recherche en plein air que certains ici prônent. Et je crois que c'est aussi dans ces inventions de format, de ces déplacements, en fait, qui rejoignent la grande conférence d'hier de Jean-Paul Thibault. Tout simplement qui nous met dans une situation d'éprouver, d'expérimenter et de partager à la fois le lieu et ses enjeux. Merci à tous les deux.